le député fédéral de Glengarry, Prescott et Russell, Francis Drouin, qui est avec nous. Bonjour, Francis.
Bonjour.
Juste rapproché du micro. Pauvre Super. Toi, t'avais Louis qui est en avant toi, qui est 6 pieds 5. OK, c'est bon. Passez un bel été?
Oui, absolument.
Oui, parce qu'on sait que les députés, oui, vous n'êtes pas en chambre, mais vous passez pas 9 semaines en vacances dans le sud à rien faire. Vous êtes dans vos comtés et vous êtes sur le terrain.
Oui, absolument. J'ai eu la chance, depuis que j'ai la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, mon début juillet est passé souvent dans des conférences internationales, mais maintenant, j'ai eu la chance de visiter plusieurs fermes, plusieurs commerces, juste avoir des conversations, à savoir comment ça va. Puis, justement, hier, j'étais au centre d'emploi de Prescott Russell. Ils ont donné 12 bourses à des jeunes étudiants, justement, pour les motiver à revenir dans notre région. Donc, ils donnent de l'argent pour aller étudier, mais principe de carotte, ils ne leur donnent pas tout en même temps, ils leur donnent des montants par année pour venir travailler dans notre région. Je trouve que c'est une initiative, une excellente initiative.
Ben oui, c'est sûr, en pleine pénurie de main-d'œuvre, puis on le sait qu'on est en compétition, qu'on le veuille ou non. Des fois, Montréal, quand on est plus vers Hawkesbury, Alexandria, Lancaster, mais aussi beaucoup Ottawa, quand on est vraiment plus à l'ouest finalement, puis les employeurs doivent faire face à cette compétition-là qui vient de ces deux grands marchés-là au niveau de la main-d'œuvre.
Absolument, mais je trouve toute la question du télétravail avec la fonction publique, j'étais en faveur parce que les fonctionnaires restent dans notre région, dans les banlieues et dépensent de l'argent dans nos restaurants qui souvent sont vides la semaine, mais maintenant que le télétravail c'est une option, j'appuie tous les centres-villes, mais j'appuie ma région en premier et je trouve que pour eux, c'est une belle flexibilité.
Bon, on peut en parler un peu de ça,
ouais.
Parce que ça il y a un peu de grogne par rapport à ça au niveau de la fonction publique, justement. Et un des commentaires que je reçois le plus souvent de ceux qui y travaillent justement dans des bureaux, soit centre-ville d'Ottawa ou du côté de Hull à Place du Portage, finalement, le constat qu'on fait, c'est qu'on est de retour au bureau 2 à 3 fois semaine. On se tape tout ce trafic-là pour finalement se ramasser au bureau et faire du Zoom avec les collègues qui, eux, sont sur leur journée où, finalement, ils ont droit à faire du télétravail. Donc, ça a amené quand même beaucoup de grogne au niveau de la fonction publique. Je ne sais pas, pour notre région, à nous... les bienfaits de ça, peut-être le retour, ça me semble être plutôt mitigé. Je ne sais pas si, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses de cette mesure-là qui avait été annoncée plus tôt par le Conseil du Trésor?
Oui, je pense qu'il faut, faut être flexible, puis c'est ça qu'on a présenté, toute la valeur de la question de la culture organisationnelle, l'impact de travailler à la maison sur la culture organisationnelle. On sait que, bien sûr, on a de l'information formelle dans les rencontres, la formalité d'avoir ces rencontres-là, mais autant plus important, c'est la conversation informelle qui se passe au café où « Hey, tu sais, là, tu avais dit ça tantôt dans une rencontre. Sur Zoom, tu ne peux pas faire ça. Mm-hmm. Ça n'existe pas. » Puis je pense qu'il y a une valeur à ça qu'on ne mesure pas encore assez. Puis la seule façon de mesurer ça, c'est d'avoir le retour au travail. Puis je pense qu'il y a quand même une bonne flexibilité. Puis le trafic... Je le fais à chaque jour. Pour moi, travailler à la maison, moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Ça ne fonctionne pas pour moi, mais je comprends qu'il y en a d'autres qui préfèrent ça. Mais je pense que la majorité des employeurs, quand je dis des employeurs, dépendamment des départements, on a, tu vois, à Orléans, par exemple, il y a un espace, une espèce de co-working space qui est encore en phase de projet pilote, qui fonctionne très bien. C'est celui qui est le plus occupé. Donc, pour certains fonctionnaires qui ont accès à ça, peuvent aller à Orléans au lieu de se rendre jusque dans le centre-ville. Puis je sais que ça peut être frustrant, je le fais moi aussi chaque matin.
Suffit d'ajouter un compte pour finalement que notre trajet quasiment double en temps sur le fameux Queensway, entre autres. On sait que vos collègues ministres sont en retraite en ce moment du côté de la Nouvelle-Écosse. Retraite qui est à l'aube de cette rentrée parlementaire qui s'en vient très, très bientôt à Ottawa avec le retour en chambre. On parle beaucoup finalement, je ne sais pas si c'était ça le plan initial, mais le plan initial, d'après moi, on l'a changé un peu à dernière seconde parce que là, c'est le coût de la vie, la crise du logement, C'est vraiment les deux sujets chauds de l'heure au niveau politique. D'ailleurs, c'est sur ces deux sujets-là que le chef de l'opposition, M. Poilievre, fait vraiment ses campagnes de publicitaire, marketing et de campagne à venir aussi également. C'est vraiment les deux messages qui commencent vraiment peut-être à porter fruit à son, de son côté à lui, de, du vôtre, du côté libéral. Et bien là, c'est un peu plus difficile justement parce qu'on est au pouvoir, donc il y a beaucoup de gens qui remettent sur le dos finalement du gouvernement fédéral ces problèmes-là au niveau du coût de la vie puis de la crise au niveau du logement. Ton son de cloche par rapport à ces enjeux-là?
Écoute, je comprends le coût de la vie, c'est sûr, je l'entends moi aussi aux portes, l'inflation est là, mais je dirais de se méfier de certains politiciens qui vont tout simplement dire « ben c'est parce que vous avez trop dépensé », puis je vais dire « Justin Trudeau, il a le dos large, là, mais c'est pas lui qui est responsable de l'inflation partout à travers le monde ». Aux États-Unis, le taux d'inflation est à 3,2%. Au Canada, il est à 3,3%. En Angleterre, le taux d'inflation est à 6,8%. En France, à peu près la même chose. En Allemagne, il est à 4,8%. Donc, tout le monde à travers le monde fait face à de l'inflation. Mais je sais que ça donne pas des excuses à monsieur et madame tout le monde qui font face à ça. Par contre, tout simplement de dire ben, « on va lâcher de dépenser, puis tout va être beau ». Je pense qu'il faut identifier la problématique en premier. La Banque du Canada est responsable de gérer l'inflation à travers les taux d'intérêt. Je pense qu'on a vu un impact quand même. Puis je sais que ça fait mal,
oui.
Surtout sur ceux et celles qui doivent renouveler leur hypothèque. Et je sais que ça fait mal. Ça, c'est une réalité. Mais il faut laisser le temps à la Banque du Canada de faire son travail. Puis on n'a pas d'ingérence politique sur les taux d'intérêt au Canada. Je ferai, c'est pas en donnant un licenciement au gouverneur de la Banque du Canada qu'on va tout régler nos problèmes non plus. Donc, on fait face à cette problématique-là. Tout le monde fait face à cette problématique-là. Sur la question du logement, oui, c'est un enjeu. Ça ne sera pas réglé demain matin non plus. Au Canada, le fédéral a une responsabilité, mais n'a pas la responsabilité entière. Puis, je vais vous donner un exemple parfait. Il y a des municipalités ici que maintenant, ils voient leur taux de croissance qui était supposé d'arriver sur 15 ans, maintenant, ils le voient sur 5 ans.
On le voit entre autres du côté du canton de Russell, là, dernièrement, on l'a vu.
Oui, fait qu'il y a qu'est-ce qu'on peut faire comme un gouvernement fédéral? Bien, il faut financer cette croissance-là. Comment on fait? Bien, c'est les sourds et les égouts. Donc, moi, ce que je m'attends cet automne, c'est de revoir une nouvelle entente avec le gouvernement ontarien pour des infrastructures, justement, pour aider aux municipalités à payer pour ça. Mais il y a aussi des mesures qui doivent être faites non seulement par les municipalités, mais par les provinces aussi, à savoir mais combien de temps que ça prend pour donner un permis de construction. Ça prend nos développeurs et notre secteur de construction qui doit être impliqué là-dedans. Peu importe le montant d'argent qu'on va donner dans cette ou mettre là-dedans, bien, ça prend la main-d'œuvre. Puis la main-d'œuvre, on ne l'a pas en ce moment.
On est effectivement dans une drôle de situation. Il y a de la pénurie de main-d'œuvre, il y a de la pénurie de logement. On accélère au niveau de l'immigration aussi. En même temps, justement, certains vont dire c'est pas contre-productif avec la crise du logement. On est dans une drôle de période où on a beaucoup de problèmes. Puis c'est un peu contre-productif. Des fois, la solution amène le problème et le problème amène la solution. On est dans une drôle d'époque en ce moment. On a beaucoup pointé du doigt, justement, puis on va continuer juste un peu avec la crise du logement, peut-être aussi ce qui peut être fait de plus par le gouvernement fédéral. Mais on a beaucoup pointé, pour ici, l'Est ontarien, les deux obstacles au développement économique étant l'accès Internet haute vitesse et l'accès au gaz naturel pour certains qui ont été deux enjeux vraiment marqués pour le développement économique. Mais on peut rajouter aussi dans ce lot-là maintenant le manque de main-d'œuvre, ça c'est définitif, mais aussi justement la crise du logement qui dans la région est vraiment difficile. J'ai des employeurs qui mettent sur la glace leur projet d'embauche, leur projet de faire venir des gens de l'extérieur parce qu'ils ne sont pas capables de leur trouver des logements, ces gens-là. Peu importe le prix, oui, logement abordable, mais logement tout court, finalement, c'est difficile.
Oui, puis dans l'ouest du comté, il y a plusieurs projets de développement, mais comme je le mentionne, c'est quand même pas assez. On peut bâtir X nombre de maisons, puis il faut avoir la façon qu'on bâtit nos maisons. Est-ce que c'est la bonne façon quand ça prend 3 à 4 mois à venir sur le marché? par le temps que tu fais la fondation, etc. Il y a d'autres façons. Par exemple, dans d'autres pays, ils manufacturent plus de maisons, justement pour couper sur le nombre d'heures de main-d'œuvre. Puis je pense que j'en ai parlé aussi, le projet New Build.
Oui.
C'est justement ça, à ce que ça veut s'attaquer à cette problématique-là, parce que eux, et c'est pour ça que je dis que c'est important de non seulement que ces conversations-là aient lieu avec les gouvernements puis les élus municipaux, mais il faut qu'elles aient lieu avec ceux qui sont dans la business de construire des maisons, parce qu'eux vont te le dire, je trouve pas de monde, j'ai de la misère à trouver des gens qui vont faire le framing, j'ai de la misère à trouver des plombiers, j'ai de la misère à trouver, puis écoute…
Ça se bâtit pas tout seul à Dorian Nouvelle.
J'ai 40 ans, j'avais 15 ans quand les gouvernements voulaient avoir plus de monde dans les métiers. Puis on en manque encore aujourd'hui, 25 ans plus tard. Donc, je pense qu'il faut changer notre stratégie envers ceci, puis créer des conditions de travail qui sont peut-être plus favorables. C'est plus le fun de travailler. Puis moi, j'ai un frère qui travaille en construction. C'est plus le fun. Quand il fait moins 40 dehors, c'est pas aussi le fun de travailler dehors. L'été, c'est moins pire, mais quand il fait moins 40 dehors, c'est moins le fun. Donc, comment est-ce qu'on peut créer ces conditions-là? Je pense qu'un projet comme New Build, à l'intérieur, dont il construit des maisons, des prefab, mais les prefab, c'est plus comme les années 70-80, c'est rendu high-tech maintenant.
Oui, ça coule plus comme ça coulait, là.
Non.
Parce que ça a été un peu le défaut des préfab au début, là, évidemment. Tu as deux bouts de maison, tu colles ensemble. ça a amené son lot de problèmes, évidemment, ça évolue depuis ce temps-là. Justement, parlant de ce projet-là, est-ce qu'on a des développements? Le dernier développement qu'on avait, c'était que finalement, on était à l'attente de pouvoir peut-être avoir du financement au niveau fédéral.
Et provincial, oui.
Et provincial, les deux ensemble.
On travaille toujours là-dessus. Je pense qu'avec avec M. Liptak et son équipe, malheureusement, on a perdu... M. Liptak a perdu quelqu'un clé dans son équipe qui travaille sur ce projet-là. Je tiens à remercier d'ailleurs la SDCPR qui mène le projet, John Candy et son équipe qui mène le projet à bout de point. Il y a toujours des hauts et des bas, mais je pense pour moi, c'est le message que je ramène. Si on veut bâtir plus de maisons, mais il faut innover dans la façon qu'on les bâtit. Puis il faut investir dans la façon qu'on veut changer, justement, la façon qu'on bâtit les maisons. Il faut investir dans des gens comme M. Leptak qui dit « Hey, moi, j'ai de la nouvelle technologie, j'ai un nouveau processus, je suis capable de raccourcir mon processus de 2 mois pour mettre des maisons sur le marché ». Sinon, on va garocher de l'argent, puis on va avoir la même conversation dans 2 ans.
Oui, non, je comprends. Il y a aussi tout... J'ai l'impression souvent... Vous pouvez me corriger, mais j'ai souvent l'impression que une partie du problème, c'est finalement que tous les paliers, on ne s'est jamais vraiment concerté et parlé ensemble. On fait des affaires... Chacun fait des affaires un peu sur leur bord. Des fois même contre-productif par rapport à un autre palier de gouvernement, par rapport aux objectifs qu'il veut atteindre. J'ai l'impression que le moment est venu un peu de tout le monde se concerter, se parler ensemble pour justement qu'on arrête de se mettre des bâtons dans les roues, que ce soit peut-être au niveau, ça peut être du financement, mais ça peut être aussi au niveau justement de certains règlements municipaux qui peuvent être contre-productifs à bâtir, là.
Oui, puis je pense que j'aime pas pointer du doigt, mais je pense que la province réalise ça aussi, qu'il y a peut-être des barrières qui étaient raisonnables là, 20 ans passés, qui sont peut-être plus raisonnables aujourd'hui. Moi, je pense entre autres à la capacité d'emprunt aux municipalités. Quand on finance, surtout pour les plus petites municipalités, ça c'est quelque chose que j'entends sur le terrain. Je parlais tantôt d'un taux de croissance de 15 ans qui est maintenant sur 5 ans. Bien, ils doivent financer les eaux, les égouts, même si c'est repayé plus tard. Leur capacité d'emprunt n'est pas là pour financer ça maintenant. Donc, ça, c'est une barrière qui doit être changée. C'est comme si tu signais un contrat, toi, avec une garantie de revenu, mais tu n'as pas le droit d'avoir cet emprunt-là. C'est un revenu garanti pour les municipalités. Donc, ça, il faut que ça change. Ça ne fait pas de sens. Aujourd'hui, ça ne fait plus de sens.
Non, c'est ça. Automne qui s'en vient, donc qui c'était un automne, j'aurais peut-être cru en préparation d'élection, je sais pas pourquoi c'est dans l'air ces derniers temps, ce genre de rumeur d'élection-là. Finalement, avec les derniers revirements, les derniers sondages qui sont pas nécessairement en faveur du gouvernement en place, pour le moment, finalement, moi, élection, j'y crois pas vraiment, pas avant un certain bout du moins. Je sais pas. J'essaie toujours d'aller vers dîner quand c'est ce genre de questions-là.
Ouais, j'ai pas. Moi, ça m'intéresse pas, mais je peux te garantir que peu importe qui est au pouvoir ou peu importe qui est à l'opposition, à chaque fois que sont hauts dans les sondages, ils vont tout faire, surtout dans un gouvernement minoritaire. Je peux vous garantir que l'opposition conservatrice va tout faire pour ralentir tout projet de loi au Parlement, justement pour frustrer le gouvernement, pour les amener à dire « ben ça ne marche plus au Parlement, on appelle une élection ou on s'en va à une élection », parce qu'eux maintenant sont 10 points d'avant. Je les blâme pas. Les libéraux feraient la même chose s'ils étaient à l'autre côté.
La politique, il restera toujours de la politique. Ben ouais.
C'est ça. C'est ça, mais quand même, je pense pas que... Tu sais, ça fait deux gouvernements minoritaires qu'on a. Normalement, là, on arrive à 2 ans au mois d'octobre. Puis je pense que monsieur, madame, tout le monde, l'élection, ça règle pas rien encore. Ils s'attendent à ce qu'on travaille.
Oui.
Puis on avance. Puis je m'attends pas à des élections cet automne-ci. Au printemps, j'ai aucune idée.
Pour cet automne, outre, soit on va tasser la rumeur d'élection, mais les sujets là, sur les sujets qui te tiennent à cœur, les projets peut-être sur lesquels tu travailles un peu, quels sont-ils?
Ben, bien sûr, moi, toute la question de au comité des langues officielles, on regarde la question de l'immigration francophone.
Oui.
Donc, vous l'avez bien dit, on fait 1,7 enfants par famille au Canada. C'est pas assez pour soutenir la pyramide. Puis la question de la main-d'œuvre, ça fait 20 ans qu'on sait que c'est un problème qui s'en vient. Les baby boomers se sont finalement retirés, pour la majorité, se retirent en grande force et ça crée des pressions sur notre marché de travail. Mais qui dit manque de main-d'œuvre, qui dit immigration francophone, doit aussi régler la crise de logement en même temps. Donc, c'est tout un cercle,
oui.
Un cercle vicieux, mais je pense que le parti politique, notre gouvernement, se doit de présenter un plan qui fait du sens et qui dit oui, on va avoir plus d'immigration parce qu'on a un manque de main-d'œuvre, mais en même temps, on se doit de travailler avec les municipalités, la province, pour dire ben il faut bâtir plus de logements et il faut changer notre façon de faire pour justement mettre plus de logements sur le marché. Puis je parle pas juste du logement, du housing, mais je parle aussi juste de l'offre de logements sur le marché. Puis ça, tout en protégeant nos terres agricoles. Puis je pense que ça, c'est une conversation que l'Ontario doit avoir. Je sais qu'il y a bien des pressions à Toronto. La communauté agricole est inquiète.
Oui.
Mais je pense que c'est une conversation qu'on se doit non seulement d'avoir au niveau local, mais au niveau de la province. C'est quoi, quelle terre qu'on protège au niveau agricole? Puis où est-ce qu'on va bâtir plus de... Parce que s'il faut bâtir plus de maisons, ça prend plus de terrain. On n'a pas le choix. Mais c'est quelle terre qu'on va sacrifier et c'est quelle terre qu'on va protéger. Je pense que il faut avoir cette conversation-là.
Un long processus de révision, j'imagine, qui s'en vient à ce niveau-là. Donc vraiment, cet automne, c'est lié à ces deux questions-là, finalement, logement et coût de la vie, finalement. Mmh. Un peu comme on voit, finalement, avec la retraite en ce moment des ministres qui ont été, finalement, les deux sujets principaux de cette retraite-là avec plusieurs experts. J'imagine que c'est ça qu'on va surveiller cet automne au niveau du gouvernement fédéral, la présentation d'un plan pour attaquer ces deux questions-là.
Oui, exactement. Puis je m'attends, comme j'ai mentionné tantôt, le ministre responsable de l'infrastructure, je m'attends à ce qu'il y ait des ententes avec les provinces sur une autre entente sur l'infrastructure sur 10 ans. On l'a fait avec l'Ontario. Là, on arrive à échéance depuis 2014. En 2024, on arrive à échéance. Voilà pourquoi on va présenter probablement un nouveau plan pour l'infrastructure pour aider les municipalités à subvenir à leurs besoins. On a parlé d'accès aux médicaments qui est quand même un coût, quand on parle de coût de la vie, qui est quand même un coût important pour certaines personnes qui, c'est pas de leur faute, ils sont malades. Mais je pense qu'au Canada, un pays du G7, on se doit de commencer à avoir ces conversations-là pour les aider à, c'est pas tout le monde qui a de l'assurance, mais pour les aider à payer leurs médicaments.
Mm-hmm. C'est sûr que, tu sais, je lisais quelque chose hier, je pense que c'était une publication d'une personne, là, puis ça disait, dans le fond, en tant que parent, il faut que je paye pour les pipennes de mes enfants.
Oui.
Tu sais, je fais pas de discrimination, puis pour avoir des gens qui en ont eu besoin dans ma famille, quelqu'un qui, une personne qui va faire des overdoses ou quelque chose comme ça à maintes reprises,
oui.
Les médicaments vont être fournis. Fait que, tu sais, il y a comme un effort aussi des fois dans des choses comme ça. Je sais qu'on ne peut pas nécessairement tout payer, mais tu sais, quand je pense à ça, l'épipène pour les enfants qui peut être tellement... Tu sais, ça peut être mortel. Fait que,
mais ça, dis, oui. Ça, c'est surtout un problème.
Ça, ouais.
C'est un problème, justement, d'accessibilité à l'assurance médicaments, finalement, là, qui est surtout là en cause dans cette question-ci, là.
C'est ça. Puis de là, donc au Parlement, on va voir un projet de loi qui sera présenté. À l'île du Prince-Édouard, on a fait un projet pilote parce qu'il y a une plus petite population, justement, pour payer pour les médicaments. Puis c'est long Moi, je pense souvent, on parle des épipènes, qui est quand même assez malheureusement fréquent dans notre société. Ceux qui ont le diabète type 1, c'est quand même assez fréquent dans notre société. Mais ceux qui ont des maladies rares, tu te sens vraiment seul. Puis je pense qu'on a eu des cas, ben, je pense à M. Jonathan Pitre, qui c'est sa mère, elle s'est battue corps et âme pour trouver un médicament partout à travers le monde. Puis moi, j'ai championné la SLA aussi à Ottawa. Tu vois là que c'est des maladies rares, puis les parents ou la personne n'a vraiment pas de ressources.
Non, puis souvent, c'est des coûts tellement astronomiques. Élevés, astronomiques.
Et même sans être astronomique, là, quand tu tombes dans du 100$, 150, 200 $ par mois de médicaments, fois 12 mois.
Oui, puis tu rajoutes que déjà le coût de la vie.
Et voilà, ben c'est là où tu vois,
c'est ça.
Ça fait mal au budget, là.
C'est ça, exactement. Donc, je me vois pas à ce que ça serait, ça soit réglé demain matin. Il faut avoir des conversations avec le secteur privé, là, le secteur de l'assurance, à savoir ça va être quoi leur rôle au sein de notre société. Si nous, on décide d'aller de l'avant, il y a quand même de l'assurance privée qui existe. Donc, plusieurs PME offrent à leurs employés, bien sûr le gouvernement et d'autres gros employeurs. Oui. Fait que, ça, c'est toutes des conversations qu'il faut avoir parce que c'est quand même c'est complexe. C'est des régimes qui sont établis au Canada.
Depuis longtemps.
Ça se fait pas. J'aimerais ça dire qu'on va fermer la lumière et ouvrir la lumière et tout va être beau. Puis au pays des merveilles, tout va être réglé. Malheureusement, la réalité ne fonctionne pas comme ça. Ça prend beaucoup de travail derrière ça.
Non, c'est bon. C'est beaucoup de réflexion. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas de solution simple à un problème complexe. Ça, évidemment. C'est bien, bien rare que ça arrive, ça. Bon automne.
Merci.
Bon automne, en espérant que ça allait bien du côté du Parlement cet automne. On sait déjà que ça va brasser entre vous, les libéraux et l'opposition. Donc, une bonne automne. On se rejase bientôt.
Absolument.
Un gros merci d'être venu, Francis Drouin, qui est député fédéral de Glengarry, Prescott et Russell.